Donc, livre des juges, chapitre 5, et on voulait juste voir encore une fois ce récit hein, de la vie de Déborah et de Barak. Et le chapitre 5, on a là un cantique, on a un chant de victoire. Et ce chant, hein, ces écrits, on va dire, poétiques, hein, retracent un peu le déroulé, si vous voulez, hein, des événements qui ont amené la libération du peuple d'Israël. De la main de Sisra. Et ce chant, hein, ce cantique, eh bien, c'est, comme j'ai dit, c'est un chant de victoire, c'est un chant de louange, c'est un chant qui élève à Dieu eh bien, des actions de grâce, de reconnaissance, parce que, voilà, c'est lui qui a accordé cette victoire, c'est lui qui a agi hein, pour que cette victoire puisse être possible. Mais ce que l'on va voir aussi à travers ce cantique, c'est que oui, on va avoir l'Éternel, le Sauveur, hein, qui est exalté, hein, mais nous verrons aussi que tous les sujets de louange qui sont apportés, c'est aussi pour ben, la manière dont Dieu il a appelé les personnes à libérer, la manière dont Dieu il a équipé, dans la manière dont il a agi, etc. Et la première chose qu'on verra, déjà, c'est bon, les versets 1er à 11. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel! Quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 000 en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix, les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Et on va juste s'arrêter là pour voir effectivement que ici, dans ce chant que Déborah bon, semble avoir composé et chanté, elle était également accompagnée hein, de Barak dans ce chant, mais on voit vraiment cette louange à Dieu pour ses œuvres merveilleuses dans les événements qui ont amené la libération du peuple d'Israël. C'est lui, on voit au verset 2, et puis bon, le verset 9 également, qui a amené le peuple d'Israël à s'unir, n'est-ce pas? Verset 2, des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Donc on voit ici que dès que, encore une fois, on a des personnes qui sont là pour mener, pour donner l'exemple, eh bien ça va susciter le désir chez les autres eh bien, de les suivre, de les accompagner. Et donc on voit dans ces versets 2 et 9, donc un peuple, et comme on le verra, mais pas tout le peuple, mais on voit des personnes qui sont prêtes à combattre, prêtes à agir. Et c'est une raison pour laquelle Déborah et Barak appellent eh bien, le peuple à bénir l'Éternel. Deuxième raison aussi, c'est que le Seigneur leur avait déjà accordé la victoire, n'est-ce pas? Et la promesse de ne pas les abandonner. On voit cela dans les versets 4 et 5. Hein, ô Éternel, quand tu sortis de Seir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. On a vraiment hein, cette image ici de la puissance de Dieu qui agit sur les éléments naturels. Hein, parce que nous avons un Dieu qui est le Dieu créateur, on a un Dieu qui est tout-puissant, on a un Dieu qui est capable d'utiliser tout pour que son plan s'accomplisse. Il est également loué pour sa fidélité, À travers tous les combats et à travers la direction que Déborah a reçue de la part de l'Éternel, Dieu était là pour les guider, pour les amener à cette victoire. Et il a choisi de le faire par la vie de Déborah. C'est elle que Dieu a choisie pour être ce messager pour Barak et pour le reste du peuple. Et elle-même donc a été cette lumière pour ce peuple d'Israël, pour les amener justement à combattre, à agir, et par la grâce de Dieu, de les amener à la victoire. Donc oui, c'est un chant qui célèbre la victoire, mais c'est un chant qui remet les choses en perspective par rapport à nos victoires spirituelles. Nous devons certes nous engager, nous devons nous certes prendre des décisions, etc. Mais la victoire, c'est Dieu qui l'accorde, c'est sa puissance, c'est lui qui agit pour amener la victoire et la libération. On voit également dans les versets 12 à 18, cette fois-ci, eh bien, ceux qui sont fidèles, les fidèles de l'Éternel qui sont reconnus. On loue Dieu dans ce chant, mais on reconnaît aussi ceux qui ont eu une part active dans cette libération. Verset 12, ça a commencé avec Déborah, n'est-ce pas? Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique, lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants, l'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs, de Zabulon des commandants. Les princes d'Issacar furent avec Déborah, et Issacar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galaad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Aser s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Naphtali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent et ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan, à Taanach, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin ni argent. Donc ce cantique, comme j'ai dit, relate aussi, eh bien, ces fidèles, ces personnes qui ont eu, comme on le voit, c'est répété plusieurs fois, ces grandes résolutions dans leur cœur pour faire quelque chose. Et ces personnes donc sont également reconnu, donc souligné, quelque part loué, on en fait l'éloge dans ce chant de Déborah. Et parmi ces personnes, eh bien oui, il y a Barak qui peut-être oui au début est hésitant, mais qui finalement fait quelque chose, n'est-ce pas? Il a agi, il a combattu également, il a relevé le défi de faire des prisonniers parmi l'ennemi, de combattre jusqu'au bout. Et il y a ceux qui avaient aussi ceux qui avaient survécu aux 20 années d'oppression ont répondu également à cet appel à combattre. On a des chefs des tribus d'Éphraïm, de Benjamin, de Makir, de Zabulon, d'Issacar qui se joignirent à Déborah pour combattre l'ennemi. Et ils suivirent Barak justement dans cette vallée pour combattre l'ennemi. Et donc grandes furent leurs résolutions, nous lisons. Mais malgré cet appel aux volontaires, et malgré même chez certains cette grande résolution, il y en a qui ne sont pas allés. Il y en a qui n'ont pas participé. Il y en a qui ont refusé de partir en guerre. Et ça montre encore une fois la situation désastreuse du peuple d'Israël. Parce que là où il y avait unité entière parmi les tribus à l'époque de Josué, c'était toutes les tribus qui agissaient ensemble sous la direction de Josué. Mais ici, ce n'est pas le cas. À l'époque de Josué, chaque tribu était censée combattre pour la nation, mais lorsque le peuple d'Israël est appelé à combattre, il y en a beaucoup qui n'ont pas répondu. Et même parmi ceux qui avaient donc la résolution, peut-être de cœur, d'y aller, il y en a qui finalement se sont désistés. Hein, les Rubénites étaient animés d'une grande résolution, hein, de bonnes intentions. Hein, ils ont envisagé de se joindre au combat. Et finalement, ils décident que, non, on a d'autres choses à faire. Hein, on est trop occupés, on doit s'occuper de nos troupeaux, etc. Les Galaadites, hein, les tribus de Manassé, de Gad, sont restés aussi tranquilles, hein, en sécurité de l'autre côté du Jourdain. On a, à l'ouest du Jourdain, Dan et Aser qui ne proposent aucun secours. On a ces deux tribus, hein, côtières qui étaient absorbées par un commerce maritime qui était lucratif. Et ils restent à l'abri. Hein. Et ceux qui restent à l'abri, pendant que leurs frères, eux, vivent dans l'oppression et se battent pour leur liberté, eh bien, on voit finalement au verset 15 et 17 qu'ils sont pointés du doigt. Ils sont condamnés pour leur inaction. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute résolution, elle doit être suivie par l'action. Hein, c'est beau d'avoir de belles intentions, de bonnes intentions, mais là où il y a un besoin et il y a besoin de participation, cette résolution, qu'est-ce qu'elle a comme valeur finalement? La valeur de cette résolution, elle va se traduire dans le fait que les gens sont présents et prêts à se battre, prêts à agir pour la libération du peuple. Et donc on a Zabulon qui était donc un peuple prêt à y aller, prêt à se sacrifier. Ils se sont jetés courageusement dans la bataille, même sans se soucier d'y perdre la vie. Et Naphtali, c'était la même chose. Mais c'était ces deux tribus-là aussi qui étaient sous cette oppression pesante de l'ennemi. Je crois qu'il y a un parallèle aussi à faire. Nous croyants du 21e siècle, nous chrétiens et nos églises, c'est triste de constater, l'Ecclésiaste le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que là où on sait qu'il y a un besoin, il y a un besoin urgent, il y a un besoin urgent, par exemple en France, de pasteurs. On a un besoin urgent de personnes qui vont prendre le relais, le flambeau et servir le Seigneur. Et on a beaucoup de chrétiens qui, il y a les bonnes intentions, on prie pour ça, mais qui est-ce qui vraiment se pose sérieusement la question par rapport à cela de qu'est-ce que moi je peux faire pour le Seigneur? Moi je suis prêt à y aller, je vais y aller, je m'engage, je suis là. Et c'est vrai que dans beaucoup d'églises, la majorité du ministère est accomplie par une minorité de chrétiens. Heureusement qu'on a encore des frères, des sœurs qui servent le Seigneur, qui aiment le Seigneur et qui le servent dans les capacités que le Seigneur leur a accordées. Mais le constat, il est quand même là. Le constat, il est que on a beaucoup d'écoles bibliques, beaucoup d'instituts bibliques qui ont fermé, que ce soit en France et même dans d'autres pays. On voit un désistement. On voit d'un autre côté aussi des églises où il y a une sorte de réveil où on voit des chrétiens qui sont tout feu, tout flamme, etc. Mais quand il s'agit de prendre une responsabilité bien concrète et bien réelle, eh bien, on retrouve ces mêmes tribus qui avaient les bonnes résolutions, les bonnes intentions, mais qui n'ont fini par rien faire. Ensuite, dans les versets 19 à 23, eh bien, là encore, Déborah va louer l'Éternel pour les victoires. On a déjà lu le verset 19, on va passer au verset 20. Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisra, le torrent de Kizon les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon, mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leurs guerriers. Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Alors là, oui, on continue dans cette louange à Dieu pour la victoire, la manière dont il a agi en employant des éléments naturels comme le torrent de Kizon qui a emporté les soldats de l'armée de Sisra. Mais on a surtout ce verset 23 où on comprend bien quel regard l'Éternel porte sur ceux qui restent inactifs. Là, les rois de Canaan, les alliés de Jabin, ont envoyé leurs armées pour combattre, eh bien, le peuple d'Israël, hein, près des eaux de Megiddo, dans la vallée d'Esdraélon. Les deux armées s'affrontent, et cette fois, les Cananéens ne purent s'emparer d'aucun butin, rien du tout. Ils n'ont rien pu faire. Pourquoi? Parce qu'on a l'Éternel qui agit. Hein, les étoiles combattirent du ciel contre Sisra. On a là une image poétique de l'intervention divine, de la main de Dieu qui agit dans la bataille. On a cet orage terrible qui transforme ce paisible fleuve qu'ils ont en un torrent impétueux. Les chevaux hein, qui ont peiné à tirer les chars à travers le bourbier. Et on voit que malgré toute hein, la grandeur de cette armée de Sisra, ben, l'Éternel, lui, va employer des choses aussi simples que la pluie, la boue, le torrent. Une goutte de pluie, si on regarde à une goutte de pluie, qu'est-ce que c'est? Hein, généralement, quand on prend une goutte, on se dit, ah, tiens, il va pleuvoir. Et puis, on se dit, bon, faut peut-être bientôt se mettre à l'abri, puis d'un coup on a les gouttes qui tombent un peu plus, et puis d'un coup, et ces derniers jours on a eu des pluies assez fortes, hein, on voit hein, ces eaux qui tombent et qui inondent les rues, hein, même quand il y a eu un peu de grêle, j'ai vu l'autre jour hein, sur Amiens, il y avait eu beaucoup de grêle aussi. Mais voilà, une goutte de pluie, c'est quelque chose de minuscule, c'est quelque chose de fragile. Mais voilà, quand on ajoute une goutte, puis une autre goutte, et des milliers, et des millions de gouttes, qu'est-ce que l'on a? On a une grande puissance. Hein, je me rappelle, il y a des années de cela, quand j'étais adolescent, hein, il y avait un village qui s'appelle Vaison-la-Romaine, et il y a eu cette situation où il y a eu beaucoup de pluies qui ont amené hein, je peux pas dire un ruisseau, mais la rivière qui traverse la ville à être remplie de millions de mètres cubes d'eau. Hein, c'était quelque chose assez choquant hein, et extraordinaire. Hein, là où il y avait un petit filet d'eau, hein, bah, on avait plusieurs mètres d'eau qui ont ravagé la région.
En fait, une ville, elle n'est pas un village, elle n'est pas si petite que ça, mais
Oui.
y a une rivière et elle coule dans une vallée quand on y fait attention, on se dit que la vallée est trop grande pour un ruisseau pareil. Et ça a été rempli d'un seul coup par un énorme orage.
Voilà.
Quand j'ai travaillé pour la sécurité civile, une vingtaine d'années après la catastrophe, on en parlait encore.
Ouais. Mais c'est pour montrer que oui, une petite goutte, on se dit, ça fait pas grand-chose. Mais quand on voit l'effet d'une pluie, d'une pluie torrentielle hein, sur la nature, et puis comme on le voit aussi hein, dans le déluge, le récit du déluge hein, qui nous est fait dans le livre de la Genèse, on sait la puissance hein, que peut avoir une pluie hein, et même toutes ces gouttes ensemble pour eh bien tout emporter sur le passage. Et là, Dieu, hein, il a pris des gouttes de pluie. Et les a employés pour dévaster, hein, pour emporter l'ennemi. Et voilà, ça a amené cette petite armée d'Israël, faible en nombre, faible en armement, d'avoir la victoire sur cet ennemi. Et donc la leçon aussi pour nous, c'est que oui, lorsque on répond et on répond favorablement à l'appel de Dieu, et on est là, on est prêt à agir et on veut agir, que lorsqu'on a cette unité hein, parmi ceux qui répondent à l'appel, ils disent oui, Seigneur, je vais y aller, et il y a cette unité hein, dans le service pour le Seigneur, hein, eh bien, Dieu, il accorde la victoire. Dieu, il dirige. Dieu, hein, il fortifie. Et si nous répondons donc favorablement à l'appel de Dieu, même aujourd'hui, c'est ce qu'il fera pour nous. Il va nous fortifier, il va nous diriger, il va répondre à nos besoins. Et donc, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la force humaine qui permettent d'accomplir les tâches que Dieu confie à ses enfants. Et ça, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Tout ce que le Nouveau Testament nous enseigne au sujet de la vie chrétienne, cette vie chrétienne, elle est possible parce que c'est Dieu qui envoyer son Esprit Saint, c'est Dieu qui équipe les chrétiens, c'est Dieu qui fortifie, c'est lui hein, qui agit lorsque Eh bien, les chrétiens répondent favorablement à cet appel. Et même parmi les plus grands récits que l'on peut voir concernant l'histoire de l'Église, hein, du christianisme, on voit souvent hein, ces récits de personnes inattendues, atypiques. Ces personnes hein, qu'on pourrait considérer comme normalement une telle personne n'aurait pas dû avoir un tel impact, mais elles en ont eu parce qu'elles se sont mises à la disposition de Dieu. Hein, vous rappelez de ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 26 et suivant, il dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, hein, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Et ça, c'est important de retenir. Parce que souvent, on entend des excuses parmi les chrétiens comme quoi, mais moi, je ne peux pas. Moi, je n'ai pas la capacité. Ou je n'ai pas l'expérience. Ou je n'ai pas la connaissance, etc. Mais ce que l'on voit encore une fois à travers les Écritures, c'est que quand on a quelqu'un qui est disposé à servir le Seigneur, c'est le Seigneur qui va l'employer et faire de grandes choses. Et donc, il est important de noter que l'ennemi fut vaincu, encore une fois, par la puissance de Dieu, avec des moyens humains, imparfaits, mais, avant tout, volontaires. Et c'est ça que Déborah souligne. Elle le souligne, hein, dès le début de ce chant, hein, des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. La partie ensuite hein, de ce chant se termine par cette allusion justement donc à ces tribus qui n'ont malheureusement pas participé. Et avec ce verset 23 qui pointe vraiment du doigt le fait que voilà, là où le peuple d'Israël aurait dû être uni entièrement, toutes les tribus, eh bien, elles sont pointées du doigt, elles sont jugées. Hein, il y a même donc dans ce verset 23 une malédiction contre Méroz. Hein, c'est l'ange de l'Éternel qui parle. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel a besoin de secours? Non. Hein, l'idée, c'est ils n'ont pas répondu à l'appel de l'Éternel, ils ne sont pas venus hein, à l'aide de leur frère. Et il y a cette malédiction donc qui tombe sur eux. Ensuite, dans ce chant, eh bien, Déborah va louer Dieu pour la bravoure de cette héroïne inattendue, hein, Jaël. Verset 24, « Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber le Kénien, béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. » Et donc là, on a un récit un peu plus, on va dire, poétique hein, de ce que Jaël a fait. Il demanda de l'eau, elle lui a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. Ça montre, bon, il y en a qui vont dire c'est assez sournois, il y en a d'autres qui vont dire que, bon, elle a quand même, d'un côté, agi de manière remarquable. Mais voilà, verset 26, « D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisra, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. » Bon, là, on n'est plus trop dans l'esprit poétique qu'on s'attendrait d'un chant, mais on a vraiment le récit de ce qui s'est produit. Et de la main de cette femme, comme cela avait été prophétisé, eh bien, au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là est tombé, il est tombé sans vie. Et par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisra regarde et s'écrie « Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement ?» Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent, et elle ne se répond à elle-même, « Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, deux jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisra, du butin en vêtements de couleur brodée, un vêtement de couleur, deux vêtements brodés pour le cou du vainqueur. » Donc ils ont loué, avec ce chant, bien sûr, la bravoure hein, de Jaël, qui a permis à la nation de remporter la victoire. Et c'est intéressant, hein, à travers tout ce récit, hein, de voir que malgré, on va dire, la violence de ce récit, on peut encore une fois voir chez Déborah, ben, une femme qui n'irait pas rester non plus insensible. On voit, on a cette impression qu'elle comprend peut-être même la douleur, hein, qu'une autre mère pouvait ressentir, hein, la mère de Sisra, lorsqu'elle se pose ces questions, ben, où est Sisra? Pourquoi il n'est pas encore rentré? Normalement, il devrait avoir gagné, normalement, il devrait jouir de son butin, etc. Et on a peut-être un peu ce ressenti, hein, de la part de Déborah, comme, ben, en essayant peut-être aussi de se mettre comme une mère à la place d'une autre mère. Mais ce qu'on retient vraiment, c'est que voilà, Dieu, à travers l'histoire, eh bien, il y a toujours un reste. Il y a toujours des personnes qui sont là, qui veulent servir le Seigneur, des personnes qui sont fidèles, même si elles sont peu nombreuses, même avec peu de gens, peu de fidèles, l'Éternel est capable de faire des choses, encore une fois, extraordinaires. On a certes, hein, des personnes qui sont restées discrètes, qui ne sont pas forcément nommées, hein, ces héros qui sont méconnus, hein, tous ces soldats qui ont participé à la bataille. Mais là encore, hein, ce qu'on doit retenir, c'est que ben, le Seigneur va utiliser plusieurs personnes de manière différente pour l'accomplissement de son plan, pour amener, hein, son peuple à la victoire. Et puis, à la fin, en verset 31, on a cette parole finalement de malédiction, cette supplication à l'Éternel par rapport aux ennemis. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Et on a après cette information que le pays fut en repos pendant 40 ans. Donc, crois, la leçon pour nous, c'est que même si nous, on n'a pas forcément une très grande image de nous-mêmes, ou on se sent incapable de faire quoi que ce soit, Dieu nous dit qu'il peut faire de nous des héros. Il peut faire de nous des héros de ce genre, de ceux qui vont peut-être, à travers la prière, hein, des prières ferventes, à travers ceux qui vont servir même de manière discrète dans l'église, à ceux qui vont accomplir les petites choses, hein, sans que personne s'en aperçoive, font tout autant partie, hein, de ce récit, hein, de bataille spirituelle, que ceux qui sont devant, hein, ceux qui sont au front, ceux qui sont en train de diriger, de mener, etc. C'est un ensemble. Et là, encore une fois, où il aurait dû y avoir cette unité, hein, parmi le peuple d'Israël, bah, malgré cette division qu'il y avait, il y avait ce reste de personnes fidèles, et le Seigneur les a employées. Crois qu'il faut se rappeler encore une fois, hein, que Dieu y connaît nos cœurs, il voit qui nous sommes, il observe nos actions, et il nous encourage à persévérer. Et lorsque on agit ainsi, lorsqu'on marche avec le Seigneur avec persévérance, Dieu, eh bien, il bénit. Dieu, il mène à la victoire. Et c'est pour ça que Paul, dans Galates chapitre 6, il encourage les frères et sœurs en disant: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Et donc là, c'est quand nous sommes au milieu, hein, des batailles spirituelles. Il faut se rappeler de ce que Dieu a été déjà capable de faire pour les autres, dans sa parole, mais aussi pour d'autres autour de nous. Et même quand on prend le temps de regarder à notre propre vie et de voir que finalement, ouais, ce que moi je pensais, c'était moi qui l'avais accompli, ben, l'Éternel a permis, l'Éternel a donné la force, l'Éternel a équipé. Et donc, en ayant tout cela à l'esprit, eh bien, on ne doit pas se lasser, on ne doit pas se lasser de faire le bien, mais de persévérer. Pourquoi? Parce que il y a la victoire, parce que à un moment donné, il y aura la moisson. Je crois que je l'avais déjà mentionné, hein, le fait que quelques Décennies auparavant, Josué avait ainsi interpellé le peuple d'Israël, à chaque tribu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et il leur dit, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fallait? Faire disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Là, c'était la condition que Josué avait montré que si on veut vraiment servir le Seigneur avec fidélité, si on veut vraiment être son peuple, on ne peut pas à côté avoir nos petits dieux, nos petites idoles, etc. Il y a une séparation qui est nécessaire. Donc continuons de servir le Seigneur. Même si le chemin il est difficile, même si l'ennemi nous paraît surpuissant, même si la voie elle est escarpée, on sait, même si que d'un point de vue humain, ça a de quoi décourager et faire peur, mais d'un point de vue chrétien, par la foi, en nous reposant sur ce que la parole nous montre de qui notre Dieu est, eh bien, on n'a pas d'excuses à avoir. Je dois m'occuper de ceci d'abord. Il faut que je fasse ceci avant. Non, on n'a pas d'excuses devant le Seigneur. Un jour, le Seigneur reviendra. C'est une promesse qu'il a faite. Et à son retour, il prendra ses enfants avec lui. Et lorsqu'on va se tenir justement devant lui, lorsqu'on se rend dans sa présence, et que, on s'imagine cette scène de voilà, alors qu'est-ce que tu as pu accomplir? Et le Seigneur va récompenser ceux qui auront servi, ceux qui auront servi le Seigneur avec fidélité, et il enlèvera toutes les mauvaises choses de notre vie. Il ne restera plus que les bonnes œuvres que nous aurons accomplies pour sa gloire. Et on sait que ce jour-là, on pourra honorer le Seigneur d'une manière qui lui est digne. Mais pour les autres, ceux qui auront vécu pour eux-mêmes, ceux qui n'auront pas forcément suivi la parole de l'Éternel, eh bien, qu'est-ce qui restera comme œuvre à présenter? Je crois que l'encouragement pour nous que l'on voit ici dans ce récit et l'encouragement que l'on voit ailleurs dans les Écritures, c'est que ce que Dieu veut voir, ce sont des serviteurs fidèles, qui, malgré l'image qu'ils peuvent avoir d'eux, eh bien, l'Éternel choisit les choses faibles, pour renverser les puissantes. Et nous devrions voir cela comme un honneur pour nous que de pouvoir laisser le Seigneur agir ainsi dans notre vie. Est-ce qu'il y a des questions ce soir par rapport à cette étude?